Le vendredi 27 et samedi 28 octobre, à Halifax, avait lieu le Salon du Livre dans le cadre du Francofest à l'École du Carrefour. Voici notre entrevue avec deux artistes présentes sur le salon, Camille Perron-Cormier, illustratrice et BDiste. Elle est venue nous présenter SOS Sorcière, publié chez Bouton d'Or Acadie, et Maëlys Payous, autrice de L'Épopée de l'eau et éditrice pour sa maison d'édition Lux & Nox.
Ok, alors déjà pour commencer, je vais vous demander chacune de présenter votre œuvre. Donc toi c'est SOS Sorcière, vas-y.
Oui, alors moi c'est SOS Sorcière, ma première bande dessinée. C'est édité à la maison d'édition Bouton d'Or Acadie, qui sont aussi ici au salon. Mm-hmm. Puis voulez-vous que je donne un petit résumé de l'histoire?
Bah oui, vas-y.
D'accord. Alors c'est l'histoire d'Andrea qui commence sa première année d'université. Donc, elle doit déménager dans une nouvelle ville et en même temps de devoir trouver des nouveaux amis, commencer tout ça, elle apprend qu'elle est une sorcière. Il y a une société secrète de sorcières dans la ville, puis il y a quelque chose de bizarre qui se passe sur le campus, puis elle va devoir avoir un rôle important à jouer pour résoudre ça.
D'accord, super. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous présenter L'Épopée de l'eau?
Oui, ça raconte l'histoire de Dorian qui vit dans un autre univers, et donc lui, son but dans la vie, c'est d'aller à la capitale du pays pour devenir le roi de la guilde des voleurs. Et pour prouver sa valeur, il décide d'aller voler un gros rubis qu'il y a en haut d'une tour maudite. Mais c'est pas un si bon voleur que ça, donc il se fait attraper. Et il est puni, en fait, et il doit s'occuper, en fait, il est envoyé dans une école de magie. La magie, c'est un enseignement qui est réservé seulement aux nobles, et il va devoir être l'homme à tout faire de l'école jusqu'à sa majorité.
D'accord, alors avant de passer sur des questions individuelles, on voulait vous demander, est-ce qu'il y a une œuvre ou des œuvres qui vous a influencé pour votre écriture? Vas-y Camille.
Ah, ça c'est pour sûr, je pense que comme juste le milieu de la bande dessinée, tout ce qui se fait en ce moment, que ce soit au Canada ou en Europe, ça m'inspire vraiment beaucoup dans le style de bande dessinée que c'est. Après ça, les histoires de magie, comme je pourrais en nommer plein, ça aussi ça m'inspire vraiment beaucoup. Yeah.
OK.
Ce sont pas des œuvres en particulier, mais c'est plus que la littérature de l'imaginaire, c'est une littérature de genre. Donc, c'est-à-dire qu'on retrouve souvent les mêmes concepts qui sont travaillés différemment. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment prendre les concepts qui me plaisaient le plus et les présenter à ma manière.
D'accord, ok. Vas-y, je te laisse poser quelques questions.
Eh bien, je vais commencer par Camille. Donc, tu as sorti SOS Sorcière, qui est donc ta BD, où tu as créé l'histoire et les illustrations également. Mais avant ça, tu as fait les illustrations pour d'autres livres, d'autres auteurs. Et donc j'aimerais savoir, pour toi, le fait d'illustrer pour toi-même ou pour les autres, quelle était la différence et comment tu vois la chose?
Bonne question. Alors, je dirais premièrement que chaque œuvre littéraire est différente, puis les images qu'on va y apporter vont être différentes. Donc, c'est vraiment intéressant de, tu sais, lire le texte de quelqu'un d'autre. Puis, dans mon cas, c'était des livres jeunesse. Puis de lire ces textes-là, puis d'imaginer un petit peu l'univers qui allait aller avec ce que l'auteur ou l'autrice a écrit. Puis, dans le cas de SOS Sorcière, oui, désolée, c'est comme, tu sais, là, c'est mon univers. Donc, comment est-ce que je veux représenter ce que j'ai dans ma tête, quel style que je veux aller dedans, etc.
Et je vais continuer avec Camille. Justement, pour ta BD SOS Sorcière, tu as déjà pensé à l'histoire ou aux illustrations? Comment ça se passe pour toi?
Alors, pour SOS Sorcière, chaque fois que je fais une présentation, je dis que la première étape pour faire une bande dessinée, c'est de trouver des idées. Puis, comme je suis quelqu'un qui dessine beaucoup, en fait, comment ça a commencé, que j'avais dessiné des dessins de personnages qui ont beaucoup changé depuis, en fait. Mais, au moment donné, je me disais, est-ce que ces personnages-là, peut-être, se connaissent? C'est quoi leur univers dans lequel ils évoluent? Puis, tout ça. Puis, c'est un petit peu comme ça que l'idée de l'histoire m'est venue. Donc, ça commençait un peu par le dessin. Mais après ça, alors que l'univers et l'histoire s'est formé dans ma tête et aussi sur le papier, je pense que les dessins se sont aussi adapté à ça, si ça fait du sens. Ouais.
Moi, j'avais une question aussi pour Camille. Comment est-ce que tu as trouvé ton style artistique?
Je pense que j'ai trouvé mon style artistique juste en lisant énormément, beaucoup de bandes dessinées. Je pense que je dirais peut-être que mon style artistique se trouve dans comme le style un petit peu de bande dessinée québécoise moderne qui se publie en ce moment. Dans le monde anglophone canadien aussi, peut-être, avec quelques influences des États-Unis, puis de la France. Et après, ben, quand j'étais ado, j'ai lu énormément de mangas, puis je pense que c'est sûr que ça a une influence aussi.
Moi, j'aimerais peut-être passer à Maëlys. Alors, notre première question, c'était que t'es née en France, puis t'es allée au Japon, puis à Montréal. Est-ce que c'est pas vraiment des voyages, mais est-ce que ces différents lieux où t'as habité ont influencé ton art?
Non.
Surprenant.
Non, pas vraiment. Je pense parce que je m'inspire pas vraiment de ce qui est à l'extérieur, mais plus des autres univers intérieurs à travers les lectures pour faire la littérature de l'imaginaire.
Donc, est-ce que tu es aussi une consommatrice de manga puisque tu as été au Japon comme Camille?
Ben, je l'ai été longtemps. J'ai travaillé aussi en librairie spécialisée en bande dessinée. Okay. Donc, oui, à cette époque, j'en profitais pour tout lire sans rien payer.
Parfait.
C'est ça. Puis, quand j'ai emménagé au Canada, c'est vrai que j'ai dû laisser tous mes livres derrière moi. Donc j'ai un petit peu arrêté, mais oui, ça reste encore dans mon cœur.
D'accord, ok. Donc on a vu que tu avais retrouvé en fait un ancien manuscrit, ta première version de l'épopée de l'eau. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de retrouver une ancienne histoire, de la retravailler aussi, parce que ça doit pas être simple. Comment ça se passe, ce processus?
Alors, je l'ai retrouvé, mais j'ai aussi retrouvé beaucoup d'autres écrits. Et j'ai gardé celui qui tenait à peu près la route parce que le reste j'aurais vraiment pas pu le retravailler, je pense, parce que j'écris vraiment depuis que je suis toute petite. Puis ça, c'était le plus récent en fait que j'ai retrouvé. Et quand je me suis installée au Canada, c'est vrai qu'il faut construire une nouvelle vie, construire un nouvel entourage, un emploi, etc. Donc j'avais mis l'écriture de côté et j'avais tout de même envie d'écrire. Quand j'ai eu ma citoyenneté, j'ai décidé de revenir à mes premiers amours, l'écriture. Et c'est là que je me suis repenchée dessus et que je l'ai retrouvé. Puis, en fait, en le relisant, ça m'a réinspirée. C'est vrai que le style d'écriture change. Donc, il y a le texte a été repris, mais pas tant le fond, parce que, comme je dis, c'est des codes d'imaginaire que j'appréciais. Donc la structure du texte n'a pas tellement changé.
D'accord, ok. Alors hier, on a eu beaucoup de personnes qui tiennent des maisons d'édition, toi aussi, mais on en parlera après. D'abord, j'aimerais vous demander, vous en tant qu'autrice, quand vous fournissez, vous donnez votre manuscrit aux maisons d'édition, ça va être retouché, n'est-ce pas? C'est peut-être un peu difficile, non, en tant qu'auteur ou autrice, de voir son texte un peu modifié. Comment vous avez vécu ça? Vas-y, si tu veux.
Honnêtement, moi, je considère, tu sais, que je suis vraiment une super nouvelle autrice. Puis, je travaille avec mon éditrice qui part là-bas. Puis, je la trouve vraiment super. Comme elle travaille sur tellement beaucoup de livres. La manière que moi, je vois ça, c'est que je veux donner aux lecteurs et aux lectrices le meilleur livre possible. Puis, chaque changement qui est apporté, je sais qu'il y a une raison derrière. Et puis, c'est vraiment pour faire de meilleurs livres. Puis, si quelqu'un peut m'aider à faire le meilleur livre possible, écoute, absolument, je vais prendre la chance, tu sais. D'accord. Puis, j'apprends beaucoup aussi, comme ça.
Ça marche. Et toi, Maïs?
Moi, je l'ai très bien vécu parce que c'est le travail d'un éditeur. Mm-hmm. Donc, tous les changements que mon éditeur m'a demandé, les éditions David, je trouvais que c'était très pertinent. Faut pas oublier que moi, je l'avais commencé il y a plusieurs années et que les temps changent, donc la littérature de l'imaginaire a changé aussi avec le temps. J'attendais effectivement qu'on fasse un travail sur mon texte. Si on l'avait accepté tel quel, je pense pas que il aurait. De toute façon, il aurait jamais été aussi abouti que maintenant, en fait.
D'accord, ok. Alors toi, justement, aussi, tu as le rôle d'éditrice, finalement. Donc, c'est avec Lux et Nox, c'est
oui,
ça?
Oui,
est-ce
ça.
Que tu peux nous parler de ta maison d'édition, sa création, le but, etc.?
Oui, je suis spécialisée dans la littérature de l'imaginaire. Ça a été fondé en 2021. Ah. Et on a commencé à publier l'année dernière. On a mis un an à construire le calendrier éditorial. Maintenant, on reçoit régulièrement, en fait, des manuscrits d'auteurs québécois, canadiens et de l'étranger. On est aussi très actifs sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc c'est ça qui nous a permis de nous faire connaître. Et effectivement, je travaille en fait les textes de mes auteurs quand je les reçois aussi après en vue de leur publication. Mm-hmm. Puis l'idée en fait, c'était que il y avait peut-être une place à prendre pour les lecteurs de l'imaginaire de 35 ans et moins. Où au Québec, on voyait peut-être moins ces histoires. J'essaie toujours de mettre des sujets d'actualité dans des récits de fantasy, parce que c'est la fantasy, c'est un petit peu vieux comme style, et j'essaie de le moderniser un petit peu en parlant de sujets actuels comme le féminisme, le racisme, etc. Mais la lecture reste un loisir. C'est juste que les personnes qui le lisent doivent se reconnaître dedans. Donc, il faut qu'il y ait des enjeux actuels.
Ouais, c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Moi, je suis une grande consommatrice de fantasy aussi. Puis, ça reste aussi très les hommes se battent, les femmes attendent.
C'est ça.
Donc, je comprends ce que tu veux dire.
Oui, c'est ça. C'est que c'était pour un univers assez masculin. L'homme est un héros. Il est seul. Les méchants ne sont que méchants. Très dichotomique.
C'est vrai.
La place des femmes aussi était très catégorisée, hiérarchisée.
Ouais, ouais.
Donc, c'est ça que j'essaye de changer aujourd'hui. Puis, de parler un petit peu de problèmes, d'enjeux actuels comme le réchauffement climatique avec les récits post-apocalyptiques de science-fiction. Ça permet d'en parler, par exemple, donc ce genre de choses-là.
D'accord. Et Mélodie, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ?
J'avais deux questions.
Vas-y.
Ne rigolez pas. Déjà, je voulais que tu nous parles peut-être des auteurs et des autrices que tu édites justement dans ta maison d'édition.
Oui, donc cette année, on a publié deux auteurs québécois. Et l'année prochaine, ils seront presque exclusivement canadiens et québécois. Donc moi, comme je dis, c'est vraiment ce que je veux, c'est je publie majoritairement de nouveaux auteurs, donc des auteurs qui ont peut-être pas la chance d'avoir été publiés ailleurs. Et je veux leur donner une voix. Donc c'est vrai que je reste très proche d'eux. On retravaille leurs textes ensemble, on en parle. Je les tiens comme. C'est pas seulement professionnel, c'est vraiment je veux les emmener au-delà. Puis je pense qu'on a beaucoup de talents au Canada qui ont peut-être c'est difficile pour eux de trouver leur place. Puis moi c'est ça que je veux leur offrir en fait.
C'est chouette.
Et pour parler justement du héros de vos histoires respectives, comment vous l'avez imaginé, comment vous le décrirez, ce héros, le personnage principal de votre histoire.
Héroïne plutôt, il me semble,
oui,
en tout cas.
Les deux.
Ok. Donc, comme oui, en effet, moi c'est une héroïne. Là. Alors le premier, c'est en fait ce que j'ai fait, c'est le premier livre d'une série. Donc dans la série, on va explorer différents personnages. Dans le premier tome, mon personnage principal c'est Andrea. Elle vient juste apprendre qu'elle est une sorcière. C'est quelqu'un qui est mis dans un environnement nouveau. Puis tu sais comme une multitude d'environnements nouveaux. Puis qui est comme quand même assez timide, mais en même temps qui a comme tu sais le c'est comme l'affaire qui te pousse sur le cœur pour comme vouloir retrouver tes personnes, ton groupe à toi, genre. Puis c'est un petit peu ça qu'elle va arriver à trouver dans l'histoire, puis arriver aussi à comme développer comment elle connecte avec ces gens-là à travers l'histoire. Puis aussi le côté comme magique, elle développe aussi ses pouvoirs magiques, puis dans son cas, c'est vraiment orienté sur les plantes. Puis elle va comme explorer une connexion aussi avec les
Ok. On parlait tantôt des mangas, donc moi je l'ai vraiment imaginé comme Naruto.
Ah, okay.
C'est-à-dire que c'est vraiment une tête brûlée, puis il veut devenir le roi des voleurs, etc. C'est un héros comme ça que je voulais. Par contre, c'est vrai que la différence avec le manga, c'est que comme c'est exclusivement du texte, puisque c'est un roman, il a fallu que j'entre un peu plus dans sa persona, que je comprenne sa personnalité, puis il fallait plus faire d'introspection en fait sur le personnage. Et comme c'est de la fantasy, ben c'est certain qu'il vit plein d'histoires extraordinaires, donc il faut que le personnage évolue. Donc si c'était un Naruto au début, comment est-ce qu'il fait après pour grandir, puis devenir adulte, etc. Donc c'est ça, je l'ai imaginé comme ça.
Moi j'ai une autre question que je pense par rapport à ce qu'on parlait hier avec les lecteurs. À quel point, peut-être surtout une question pour toi Maëlys, à quel point tu aimes donner de la description, ou est-ce que tu veux laisser le lecteur se faire sa propre idée?
Je pense que en littérature de l'imaginaire, ça dépend de ce qu'on écrit. Par exemple, moi, c'est ce qu'on appelle de la high fantasy, donc c'est un univers qui est totalement inventé, comme dans Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux, pas par exemple comme Harry Potter où les deux mondes sont mélangés. Ce qui fait que quand tu écris ce genre de livre-là, tu es obligé de faire beaucoup de descriptions. Si tu fais de la fantasy urbaine et que c'est dans notre univers et qu'il y a des vampires, on n'aura pas besoin d'expliquer ce que c'est une voiture.
Oui.
Si on écrit un tout nouvel univers et qu'on a besoin que le lecteur comprenne en fait les enjeux, l'environnement, etc., ben il va falloir donner plus de descriptions. Et je pense que l'enjeu, c'est de savoir quand distiller la bonne information pour pas mettre des pages et des pages et des pages de descriptions, pour que ça reste en fait, le lecteur reste dans l'action, mais qu'il puisse visualiser où on se trouve. Et je m'attends pas à ce que le lecteur visualise l'espace comme moi je le fais. Chacun, c'est pour ça qu'on lit aussi, sinon on regarderait un film là. Donc chacun peut imaginer la scène comme il le souhaite tant que l'essence est là.
D'accord. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, Mélodie?
Peut-être une dernière question. Vas-y. Sur les sujets que vous avez prévus pour les mois à venir, l'année prochaine, peut-être vos prochains projets.
Et je suis déjà en train de travailler sur la suite SOS Sorcière. Puis la suite va parler un petit peu de conflits familiaux et aussi comme personnels, cadre d'identité. Peu d'autres. Aussi, à quoi ça va avoir l'air comme côté magique? Je pense que le côté les enjeux magiques auxquels fait face le campus de dans mon histoire, ça va s'empirer un petit peu. Donc ouais, je pense que c'est super ça que ça s'en va pour l'instant.
Moi, le plus grand des voleurs, c'est le tome 1. Donc, l'épopée de l'eau, c'est une série. Ça va être en 2 tomes. Donc, je suis en train de rédiger le tome 2, qui peut-être paraîtra soit à l'automne prochain, soit en 2025. Et je suis en train de continuer à préparer le catalogue de Luxenox pour l'année prochaine. Donc, si jamais il y a des écrivains en herbe qui écrivent de la fantasy, je les invite à m'envoyer leurs manuscrits.
Ok, j'ai une dernière question pour les écrivains. Est-ce qu'il faut que le manuscrit soit fini? Est-ce qu'il faut que le livre soit fini pour te l'envoyer?
Oui, bien sûr, on juge le manuscrit s'il est final. C'est certain que, comme on en a parlé tout à l'heure, on le retravaille tout le temps. Mais la fin d'une histoire, c'est quand même toujours très important. Donc oui.
D'accord. Merci. Où est-ce qu'on peut retrouver vos œuvres, votre travail?
On peut retrouver, en tout cas dans mon cas, mes œuvres sont ici au Salon du Livre de Halifax. La maison d'édition Bouton Nord Acadie qui édite SOS Sorcière, ils ont une superbe table. Comme je parlais au tout début d'une bande dessinée didactique là pour partager des informations, ça se trouve à la table de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Puis autre que ça, je vous encourage à visiter vos librairies, bibliothèques. C'est souvent possible de commander aussi les livres comme ceci. Comme moi, j'étais avec une maison d'édition locale de l'Acadie, donc tu sais, n'hésitez pas à commander puis tout ça.
Ok. Et toi, Maïs?
Pour l'épopée de l'eau au festival, en fait, on a eu un petit problème de livraison, donc je les ai pas ici aujourd'hui, mais ils sont aussi disponibles en librairie chez les éditions David et Bouton d'or a aussi quelques exemplaires, donc ils sont commandables en ligne et en librairie.
Merci à Camille Perron-Cormier et Maëlys Payous pour cette entrevue. C'était Adèle de C98 pour IGL Halifax.